Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire.
Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCF, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute.
Bonjour Ariel Veil, vous êtes maire de Paris-Centre, née en 2020 de la fusion des 4 premiers arrondissements de Paris. Quelles sont vos ambitions pour cette portion de capitale ?
Bonjour, effectivement, depuis 2020, nous avons un secteur, le seul secteur de Paris qui regroupe les 4 premiers arrondissements de Paris, les plus vieux aussi, le centre historique de Paris. Et mes priorités sont évidemment liées à ce double enjeu. D'une part, celui d'honorer à la hauteur de sa grandeur ce berceau de la ville de Paris, de la cité au Grand Boulevard, c'est-à-dire les anciennes enceintes de Charles V. Et je pourrais consacrer au fond toute ma mandature à rénover ce superbe patrimoine de fontaines, d'églises, de tableaux aussi qui sont extraordinaires. Et c'est évidemment une énorme partie de mon mandat. Elle est extrêmement importante, mais bien évidemment aussi, elle n'est pas suffisante. Je ne peux pas faire que ça. Et mon autre objectif, le double de cet objectif-là, c'est évidemment de faire en sorte que ce soit un lieu où les Parisiennes et Parisiens puissent continuer à vivre bien, à vivre dans leur diversité, leur mixité. Et donc, on a aussi énormément de transformations à faire. Transformation d'abord de bureaux, d'anciens locaux qui étaient vides, comme à la caserne des Minimes ou à Morlan, où on crée du logement social, pas que, on fait aussi du commerce, on transforme en de nouveaux usages des équipements publics, des piscines, du sport, des crèches. Voilà, dans tous ces lieux, on remet de la vie, on met des lieux de vie, on le fait bien. Et puis aussi, sinon ce serait pas suffisant, on accompagne la transformation aussi de cette ville pour qu'elle soit plus agréable à vivre. Eh bien, il faut en réduire la pollution, le trafic, et vous savez que c'est l'un des grands projets de notre mandature dans le centre de Paris, c'est de transformer ce centre en une zone à trafic limité, c'est-à-dire d'en réduire beaucoup, drastiquement, le trafic et la pollution, avec même un petit bout de la rive gauche qu'on a ajouté lors du 5, 6 et 17e arrondissement, vraiment le Paris historique, qui a en particulier cette spécificité d'avoir des rues qui sont souvent étroites, un patrimoine que j'ai cité très ancien, et qui se prête peu à l'usage qui en est parfois fait d'échangeurs routiers, vous voyez, ou d'accélérateurs. Et donc, on l'a résumé un peu sous une formule rapide, Paris-Centre ne peut plus être un raccourci pour traverser Paris. Et donc, ce sera un des grands objectifs que de réduire cette circulation. Et avec cette réduction de la circulation, eh bien de redonner de l'espace, plus d'espace aux Parisiennes, aux Parisiens, des trottoirs élargis, des places, des parvis d'école aussi qui sont piétonnisés. Ce sont nos rues aux écoles et puis nos rues aux enfants quand on les anime pour que les enfants puissent jouer, par exemple, sur l'espace public.
Très bien. Alors, l'inclusion numérique, le développement des outils numériques, est-ce que ces sujets-là font aussi partie de vos préoccupations et quelles sont vos actions autour de ces sujets ?
Bien sûr, ça fait partie de nos préoccupations. Et je dirais même qu'on est dans un moment particulièrement crucial sur l'inclusion numérique. Parce que d'abord, on est dans un moment de développement sans précédent, je crois, de la dématérialisation, c'est-à-dire de la conduite des choses à distance, évidemment singulièrement accrue par la crise sanitaire, qui a conduit les gens à télétravailler, les administrations à devoir encore mettre les bouchées doubles sur la dématérialisation, sur la possibilité de faire les choses à distance, y compris avec nos agents. Et donc, d'un côté, c'est souhaitable, on a besoin que l'administration se dématérialise et offre ce service aux gens à distance. Et de l'autre côté, la crise sociale qui accompagne cette crise sanitaire fait que le gouffre se creuse, ce gouffre numérique se creuse de manière très importante. Et donc, il faut qu'on fasse les deux à la fois, là, ici aussi, c'est accompagner cette transformation agile du service public en le dématérialisant et accompagner les publics qui sont les plus éloignés et qui souffreront le plus de cet éloignement du service public s'il est tout numérique. Alors, comment on le fait ? Eh bien, on le fait partout où on a du service public et notamment dans nos lieux d'accueil des mairies, en accompagnant les gens. Par exemple, et c'est quelque chose que j'avais testé d'ailleurs et qui maintenant est déployé dans tout Paris, je l'avais d'abord testé à la mairie du 4e quand j'y suis arrivé, c'est ce qu'on appelle la facilitation numérique, c'est-à-dire, et j'aime bien ce concept, des agents qui sont là physiquement et qui accueillent physiquement les gens pour leur montrer et pour les guider dans leur démarche dématérialisée. Donc vous voyez, on est mis dans sans l'évitement de la numérisation et de la dématérialisation, ni dans l'absence de contacts humains qui sont si importants. Donc on a des agents qui sont formés de plus en plus et qui accueillent sur des bornes qui sont destinées à ça les publics pour les guider dans leur démarche, qu'elles soient d'ailleurs municipales ou même nationales, pour des rendez-vous avec la préfecture, en les guidant, en les aidant à accomplir ces démarches. Ça, c'est la facilitation numérique. On en a des bornes à peu près dans toutes les mairies. Et on a commencé ici dans le centre de Paris. On a également beaucoup de services qui sont dans les bibliothèques, dans ces lieux de gratuité d'emprunt des livres. Et bien, il y a des ordinateurs connectés pour que les gens puissent aussi ouvrir un compte, faire des démarches par Internet. Et puis enfin, on a même un super service qu'on a installé dans une des anciennes mairies de Paris-Centre, puisque on en avait quatre, et aujourd'hui il y en a deux que nous avons mobilisés pour les services de Paris-Centre, deux autres qui ont donné lieu à des services publics tout parisiens, dans la mairie, l'ancienne mairie du 2e arrondissement, où j'ai installé nos services sociaux, les services sociaux de Paris-Centre, eh bien nous y avons aussi inclus, que ce ne soit pas qu'un guichet social, on y a aussi inclus un acteur associatif qui est Emmaüs Connect. Donc précisément la mission est de combler ce fossé numérique en faisant des formations, en ayant des ordinateurs à disposition, en accueillant les gens pour les équiper, leur permettre de faire leur démarche, mais surtout leur apprendre à les faire aussi eux-mêmes.
Très bien. Alors, on dit des crises qu'elles sont révélatrices. Qu'a révélé pour vous la crise sanitaire que nous traversons ?
Oui, je suis absolument d'accord. Non seulement elles sont révélatrices, mais et surtout, elles sont transformatrices. C'est-à-dire que ce qu'a révélé la crise nous a permis de faire en sorte qu'une fois que cette crise sanitaire sera terminée, on espère le plus vite possible, plus rien ne soit jamais comme avant. Et donc, en particulier sur un certain nombre de sujets, sujet de la solidarité, par exemple, la crise a révélé, on le savait déjà un petit peu, mais elle a révélé l'étendue de la disponibilité des Parisiennes et des Parisiens, de leur volonté de s'engager, de nous aider dans ce que je crois être vraiment le service public, c'est-à-dire une combinaison du travail des agents, des fonctionnaires du service public avec le relais des associations et puis des citoyens qui sont hors de toute association engagés dans le service public. Alors, par exemple, je donne cet exemple-là de l'engagement. On le savait, on en avait l'habitude et la tradition. Moi-même, d'ailleurs, bien avant d'être élu, j'ai fait partie de ces Parisiennes et ces Parisiens qui ont passé quelques heures à servir des repas ou s'engager comme ça, comme on peut tous le faire à des heures perdues. Et c'est a toujours été une dimension importante de mon mandat. Mais avec la crise, les besoins ont été tels, et la crise sanitaire qui a accompagné la crise sociale, qui a doublé la crise sanitaire, eh bien, les besoins ont été énormes. Et qu'il s'agisse de collecte alimentaire, qu'il s'agisse d'aider sur les distributions de repas, on a beaucoup municipalisé, eh bien, les habitants ont été là, ils ont cherché à s'engager. Alors, on l'a fait ou pour coudre des masques, ou pour les accompagner, les distribuer à l'époque où il n'y en avait pas du tout, par exemple, chez les personnes âgées. Eh bien, les gens ont été là. On a monté de manière un petit peu artisanale cette mobilisation. Et puis, on l'a presque industrialisée, puisque dans l'ancienne mairie du 2e arrondissement, que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'elle accueille nos services sociaux, mais aussi Emmaüs Connect, eh bien, nous avons aussi une autre institution parisienne maintenant, qui est toute récente, qui s'est créée, qui est fille de la crise sanitaire. C'est la fabrique de la solidarité, c'est-à-dire un service de la ville dédié à justement mobiliser les volontaires, les bénévoles parisiennes et parisiens. Alors c'est un service pour tout Paris, mais on est très heureux qu'il soit chez nous, et c'est peut-être pas un hasard, on l'a beaucoup utilisé, mobilisé. Donc aujourd'hui, quand les habitants veulent s'engager, ils peuvent aller sur le site de la fabrique de la solidarité et ils peuvent y trouver une mission près de chez eux, dans les heures qu'ils ont, qui sont disponibles, pour s'engager. Et de manière symétrique, quand des associations ou des services à nous ont besoin de bénévoles, eh bien, ils peuvent créer cette mission en indiquant la durée, les besoins et le lieu pour que les bénévoles puissent trouver un moyen de s'engager. Donc ça, c'est, je dirais presque la dimension la plus importante, c'est la dimension solidaire. Je crois que sur la dimension aussi médicale, sanitaire, on a tous pu vérifier, au-delà même de nos espérances, à quel point on était capable de mobiliser le terrain, les acteurs du terrain, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient privés, notamment par exemple sur les centres de vaccination. On a à la mairie de Paris-Centre ouvert dès le mois de janvier de l'année dernière un centre de vaccination. On a été prévenus, on demandait à le faire depuis longtemps, mais les autorités sanitaires nous ont autorisé et nous ont donné des doses. En 3 jours, on a monté ce centre et il n'a jamais désempli, ni en en termes de public, mais ni en termes de personnel soignant. On a mis des agents, on a mis aussi des personnels soignants, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, et on les a trouvés dans le territoire. Il y a eu des retraités, il y a eu aussi des jeunes internes, par exemple. Voilà, toutes générations confondues, ils se sont vraiment mobilisés, ils sont venus ici. Et je crois qu'après cette crise aussi, on sait l'importance du réseau territorial de sanitaire. Je crois que le gouvernement aussi a pu mesurer à quel point les collectivités territoriales, qui dans un premier temps d'extrême centralisation des politiques sanitaires avaient été un peu laissées sur le côté, ont été un outil incroyable pour la diffusion du vaccin, des tests et d'une manière générale la résolution de cette crise sanitaire. Et puis je voudrais donner un dernier exemple si vous m'en laissez l'opportunité, c'est sur l'espace public. Je crois que des choses qui étaient engagées depuis longtemps ont pu être accélérées. On s'est rendu compte à quel point les habitants étaient prêts et même souhaitaient encore accélérer la cadence sur la transformation de l'espace public et le dégagement de cet espace public, notamment l'agrandissement des trottoirs, l'installation de pistes cyclables plus longues. Et c'est ce qu'on a fait, vous savez, au lendemain du premier confinement, quand les gens retournaient un petit peu à reculons, avec un peu d'hésitation au travail, et tout le monde avait peur d'un engorgement de nos rues par des voitures ou du système de transport public. Eh bien, on a doubler les trottoirs, notamment dans le centre de Paris, c'est une particularité puisqu'on avait des rues très très étroites et très fréquentées. Eh bien, on a élargi les trottoirs, on a aussi créé des pistes cyclables supplémentaires, on les a appelées un peu des corona trottoirs et des corona pistes, je sais pas si le terme est très joyeux, mais en tout cas, ce qu'on a fait au lendemain du premier confinement, eh bien aujourd'hui, c'est quasi transformé en pérenne. On a transformé une grande partie de ces pistes cyclables en pistes pérennes. On a transformé une grande partie de ces trottoirs dont l'idée nous serait même peut-être pas venue sans la crise, en extension pérenne du trottoir pour les piétons, pour les personnes à mobilité réduite aussi. Et donc, la crise a été un révélateur et un accélérateur, vraiment, de ces politiques de transformation de l'espace public.
Très bien, monsieur le maire. Alors, quels sont vos vœux pour l'année 2022 ?
Alors, mes vœux, eh bien, écoutez, c'est simple. C'est d'abord, évidemment, qu'on se sorte de cette crise sanitaire, enfin, mais que tout ce qu'on a gagné dans cette crise, tout ce qu'on a pu voir se révéler de beau, d'important, et puisse perdurer. Et donc c'est ça que j'ai à cœur, c'est que à la fois on éteigne la crise sanitaire, mais qu'en même temps on ne retransforme, on n'abandonne jamais tout ce qu'elle nous a permis d'accélérer. Alors je l'ai dit ici, je le redis, la transformation de l'espace public, redonner beaucoup plus d'espace aux piétons, aux personnes qui sont les plus fragiles et aux demandants qui sont quand même celles qui se déplacent. Enfin, le premier mode de transport, c'est la marche. En tout cas, c'est le cas à Paris, c'est le cas en particulier dans le centre de Paris. Donc, redonner plus d'espace, diminuer la pollution, le trafic, la pollution sonore aussi, ça c'est important. Maintenir cette mobilisation sans précédent des gens en termes de solidarité, en donnant des lieux, en installant dans la durée cet engagement, cette possibilité de s'engager. J'ai cité la fabrique de la solidarité à cet égard. Et puis, enfin, animer tout cet espace public reconquis en donnant de l'espace pour les enfants, pour le sport, pour les seniors. Voilà, au mieux partager cet espace public.
Merci beaucoup, monsieur le maire.